Radio Kapi.
Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Reprise aujourd'hui au Nord Kivu par les FARDC des régions de Bougoussa, Tchenguerero, Tcheya et Mbouzi. C'était à la faveur d'une offensive menée pour neutraliser les rebelles du M23. En Ituri, la peste bubonique a coûté la vie à deux personnes dans la zone de santé de Réti, épicentre de cette maladie en territoire de Djougou. Plus de 1700 enfants malades sont actuellement sous surveillance médicale. Notre invité, c'est le professeur Jacques Joly. Ce constitutionnaliste était l'un des orateurs au colloque tenu à l'université de Lubumbashi sur le 7e anniversaire de la Cour constitutionnelle, dont les assises se sont achevées hier. Voilà pour les titres. Madame, messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Polydore Basunga. Au Nord Kivu, les FARDC ont repris ce mercredi matin les régions de Bougoussa, Tchenguerero, Tcheya et Mbouzi à la faveur d'une offensive lancée pour neutraliser les rebelles du M23. Selon la société civile de Rutshuru et de Djoumba, les FARDC ont également pilonné ce matin les collines stratégiques de Runyonyi et de Tchanzu pour y déloger ces rebelles. Le point de la situation avec vous, Sifa Magou.
Des bombardements se font entendre depuis tôt ce mercredi dans cette région de la vallée au pied des collines. La société civile de Rutshuru indique que les rebelles du M23 se sont d'abord retirés sans accrochage dans les localités de Tcheya, une partie de Tchenguerero et un peu plus loin. C'est au niveau de Mbouzi en montant vers Gassizi pour atteindre Runyonyi et Tchanzu que les deux parties se sont affrontées violemment pendant que les troupes de FARDC étaient appuyées par des frappes aériennes. La société civile de la région salue cette progression de l'armée et espère que leurs positions seront consolidées pour favoriser le retour de la population. Côté Bunagana, vers la frontière avec l'Ouganda, c'est l'accalmie ce mercredi. Les habitants tentent d'évacuer à leurs activités socio-économiques pendant que l'on assiste à des mouvements de va-et-vient de certaines familles entre l'Ouganda et la RDC. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Nord Kivu encore. La société civile s'oppose à l'intégration des combattants et des leaders politiques du M23 au sein des FARDC et des institutions politiques de la RDC. Dans un communiqué de presse rendu public lundi dernier, cette organisation citoyenne appelle le président Félix Tshisekedi Tshilombo à s'abstenir de signer ou d'avoir des engagements particuliers avec les responsables de ces rebelles. Explication avec vous, Bernardine Diambou.
Ce communiqué a été signé par tous les présidents territoriaux de la société civile du Nord Kivu. Ces derniers estiment que les récentes attaques simultanées de positions militaires des FARDC à Runyonyi et à Tchanzu, en territoire de Rutshuru, auraient pour l'objectif d'exercer une pression sur le gouvernement congolais. Edgar Katembo Mateso, vice-président de la société civile du Nord Kivu, explique.
Accepter l'intégration militaire et politique des combattants du M23, c'est vider l'essence même de PDDRCS car cela sera perçu comme une sélectivité dans le traitement des groupes armés et par ricochet décourager les acteurs nationaux et internationaux ayant consacré leurs efforts à la reddition des combattants des groupes armés.
La société civile ajoute que les combats du 27 et 28 mars dernier ont engendré un bilan macabre. 14 civils auraient été tués, 37 789 déplacés internes et 13 000 réfugiés ont pris la direction de l'Ouganda en territoire de Kisoro. Ils vivent sans aucune assistance humanitaire. Un officier des FARDC aurait aussi succombé à ses blessures après avoir subi des tortures, précise le même communiqué. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
En Ituri, pendant ces temps, certains déplacés regagnent déjà leur village et vaquent à leurs activités champêtres dans les chefferies de Banyari Tchabi et Bahema Bouga au sud du territoire d'Irumu. Selon les acteurs de la société civile, c'est le résultat des opérations militaires menées conjointement entre les FARDC et l'armée ougandaise contre les rebelles de l'ADF. Ils plaident par conséquent pour l'intensification des opérations militaires pour chasser ces rebelles qui occupent encore certains villages. Reportage à Bounia d'Isaac Moyopé.
Une accalmie s'observe aussi d'Irumu depuis le lancement des opérations militaires par les FARDC et l'armée ougandaise contre les rebelles des ADF, ce qui encourage les retours de la population, notamment au village de Kinyanjojo, Nyakatale et Ruzinga dans la chefferie de Baimaboga. La société civile locale indique que les habitants se rendent également dans leurs champs, mais pas en profondeur dans la forêt où ces rebelles sont encore visibles. C'est notamment au village de Malaya, Bouleyi et Mugwanga qui sont quasi déserts. Le président de la société civile de la chefferie de Baimaboga, Albert Baseke, demande aux forces conjointes d'intensifier les attaques contre les positions de ces rebelles.
Malgré les opérations conjointes, il y a encore la présence de l'ennemi qui se fait voir. Vous savez, comme l'avant-hier, on les a vus dans des villages périphériques de 3 km, 5 km du centre.
Dans la chefferie voisine de Banyari-Tchabi, la population est concentrée essentiellement au chef-lieu de la chefferie, affirme le président des jeunes. D'autres groupements, dont Boyo et Tondoli, sont encore occupés par ces ADF, ce qui empêche la majorité de la population de cette chefferie de regagner son milieu. Le porte-parole des FARDC à Ituri indique que les opérations militaires sont en cours aussi d'Idirumu pour pacifier totalement la région, le lieutenant Gilles Ngongo.
Nous comprenons leurs soucis, nous sommes dans des opérations. Là où l'ennemi sera localisé, nous allons frapper fort.
Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi cette accalmie observée au sud Kivu dans les hauts plateaux de Kalehe et de Walungu en passant par la plaine de la Ruzizi, ce qui facilite du coup la reprise des activités champêtres. La plupart des miliciens et d'autres jeunes à risque sont réinsérés grâce au programme de réduction des violences communautaires de la MONUSCO. À Bukavu, la correspondance d'Emmanuel Elmejo Kabidi.
Le territoire de Kalehe vit son accalmie totale depuis quelques mois maintenant. Les hauts plateaux de Ziralo et Numbi, à Bunyakiri et les alentours du parc national de Kahuzi-Biega, autrefois théâtre des affrontements, retrouvent leur calme. Aucun groupe armé local ou étranger n'est opérationnel à ce jour dans cette partie du sud Kivu. Monsieur Dédé Mwamba, administrateur de Kalehe.
La situation est vraiment calme puisque il y avait beaucoup de notables qui se sont donnés pour une campagne. À côté de cela, les FARDC. Alors, beaucoup de hommes voulaient vraiment déposer les armes. C'est ainsi que il y a certains qui se sont réellement rendus puisque il n'y a pas une raison de rester encore en brousse.
La même accalmie est observée dans la région de Walungu et Shabunda, la plupart des jeunes ex-combattants ont adhéré à la sensibilisation et se sont rendus. La MONUSCO Sud Kivu, avec son programme de la réduction des violences communautaires, a réinséré des centaines de jeunes. La mission onusienne leur offre des activités génératrices de revenus comme la formation professionnelle, l'adduction d'eau potable et l'éclairage public par des lampadaires. Beaucoup d'autres disent attendre le PDDRCS pour quitter définitivement la brousse. Emmanuel Elamijo Akabedi, Bukavu Radio Okapi.
Désormais, les FARDC seront dotés des uniformes confectionnés localement en RDC. Le lancement de l'opération a eu lieu hier en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Cette initiative est mise en œuvre par le ministère de la Défense nationale en vue de promouvoir la production locale. Jean-Michel Samalukonde Kyenge parlait d'une stratégie qui consiste à résister aux chocs extérieurs. Il est au micro de Billy Valutuma.
Pour moi, c'est un honneur d'être ici, je l'ai dit, pour lancer justement cette production militaire. Nous avons visité un atelier de production de tenues militaires. Et ce que moi, je suis venu encourager, nous avons, dans notre politique, décidé de mettre en avant la production locale. Donc, nous y avons mis des moyens. Et ce n'est qu'un début, ça doit se poursuivre. Et par la suite, ici, ce qui est recherché, ce que je suis venu encourager, parce que je l'ai dit, c'est cette idée donnée déjà par Son Excellence Monsieur le Président de la République en notre propre capacité de résilience et de production locale. Nous faisons face aujourd'hui désormais à tellement d'effets mondiaux, économiques et sociaux qui font que chaque pays devra travailler sur sa propre résilience et sa propre détermination en tenant compte de ses potentialités et de sa diversité. On parle de diversité ici dans la production militaire, mais ça doit s'étendre finalement comme exemple dans tous les domaines de vie où de plus en plus on devra investir chez nous, pour nous, dans notre industrie et finalement pour atteindre au niveau d'abord de la République démocratique du Congo une capacité totale et pourquoi pas aller vers l'extérieur.
Santé à présent. L'Ituri a documenté récemment 25 cas de peste bubonique, dont 2 décès ont été documentés dans la zone de santé de Réti, épicentre de cette maladie dans les territoires de Djougou. Le chef de division provinciale de la santé affirme que parmi les enfants malades, plus de 1700 enfants sont sous surveillance médicale. Dr Louis Tchoulo précise que les territoires de Djougou, de Mahagui et Darou sont affectés par cette maladie transmise par les rats. Il conseille le lavage de mains et l'assainissement du milieu. Il s'est confié à Ezekiel Mozalia.
À ce jour, l'unique zone qui a notifié les cas en 2022, c'est la zone de santé de Réti. À la fin du mois de mars, on vient de notifier 25 cas avec 2 décès. Sur les 25 cas, il y a un cas qui était un peu avant et le 24, c'est ce que nous suivons maintenant. Donc, pratiquement 24 cas et 2 décès. Nous avons 22 malades qui sont sous traitement pour le moment et tous les 22 évoluent bien. Nous avons autour de chaque cas 1700 contacts. Le contact, nous le mettons sous chimio-prophylaxie, donc on le soumet sous doxycycline pour qu'il ne puisse pas développer la maladie. Et la solution durable, c'est ce que s'est fait déjà du côté Mahagui, on appelle One Health, une santé. Donc c'est que nos équipes travaillent ensemble pour que déjà ces rongeurs ou ces animaux ne puissent pas amener leur pathologie parmi les humains ici.
Revenons un instant au Nord Kivu où la MONUSCO a financé la réhabilitation de la route qui va de Kilia à Alungupa dans le territoire de Beni. Cet ouvrage qui a coûté à la mission onusienne 85 000 $ américains permettra aussi aux habitants d'évacuer quotidiennement leur production agricole vers les centres de consommation. Les ex-combattants, jeunes à risque et les femmes vulnérables engagés dans le projet auront elles aussi de revenus pour mener des activités génératrices de revenus. Explication de Blaise Makassi.
Longue de 9 km, cette route était devenue impraticable et rendait impossible l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation, mais aussi l'intervention rapide de l'armée en cas d'attaque des groupes armés. Les travaux ont consisté en l'élargissement de la route, l'exécution des canalisations des eaux, le rechargement pour mettre fin aux bourbiers, la construction des ouvrages d'art, les ponts et les caniveaux. Selon Bernard Bayombe, superviseur de l'ONG Appel, point focal du projet, celui-ci a recouru essentiellement à la main-d'œuvre locale.
La population a été vraiment bénéficiaire de ces projets parce que la main d'œuvre était constituée d'abord de la population locale. On a recruté les jeunes à risque, on a recruté aussi les ex-combattants.
De son côté, Kambale Kalwana, président de la société civile Noyau de Kilia, affirme que la réhabilitation de cette route améliorera le trafic et favorisera les échanges commerciaux.
Nous encourageons beaucoup notre partenaire, la MONUSCO. À travers cette route, nous venons de constater que peut-être nous aurons une sécurité durable. Pour nous, ça nous facilite aussi de ravitailler nos marchandises facilement.
Le projet a permis de réduire la violence des jeunes désœuvrés, tenter de rejoindre les groupes armés actifs dans les secteurs des Rwenzori, tout en améliorant l'accès aux forces de défense et de sécurité dans une zone difficilement accessible en véhicule.
On en vient maintenant à la difficulté d'accès à l'électricité ces jours-ci dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Le directeur provincial de la SNEL affirme à Radio Kapi aujourd'hui que 2 machines qui alimentent les provinces du Katanga et de Kinshasa sont actuellement à l'arrêt au barrage d'Inga au Congo central. Bokele Likela rassure que des ingénieurs de la SNEL sont à pied d'œuvre en ce moment pour pouvoir remettre à l'État l'un des groupe d'ici lundi prochain. Il a été joint par Blaise Shindani Kambala.
Au niveau du site d'Inga, précisément à la centrale d'Inga 2, nous avons 2 groupes qui sont à l'arrêt. L'arrêt de ces 2 groupes, de ces 2 machines, fait que nous puissions connaître un déficit important de puissance pour être utilisé ici dans la ville. C'est ce qui motive tous ces délestages, toutes ces coupures que vous êtes en train d'enregistrer. Mais cela a été déjà annoncé par nous, par la voix de la presse.
La population doit attendre jusqu'à quand? Ça peut prendre combien de temps à peu près?
L'un du groupe peut rentrer d'ici 3-4 jours au maximum. Donc on est aujourd'hui mercredi, mais nous croyons que d'ici lundi ou plus tard, l'un des groupes va déjà revenir. Tandis que le deuxième, ça nécessite des travaux, des visites de la machine. Ça fait prendre un peu plus de temps. Donc nous comptons sur 3 ou 4 semaines.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, l'ancien président de la République Blaise Compaoré a été condamné ce mercredi matin par contumace à la prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. Le commandant de sa garde rapprochée Hyacinthe Kafando et le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l'armée lors du coup d'État de 1987, ont également écopé de la prison à vie. En Israël, pendant ces temps, la coalition du Premier ministre Naftali Bennett a perdu aujourd'hui, mercredi, sa majorité au Parlement après le départ, surprise, d'une députée nationale, Madame Edith Silman, qui lui était très proche. De ce fait, la coalition gouvernementale n'a plus le soutien que de 60 élus nationaux, un seul sous le seuil de la majorité de 61 à la Knesset, le Parlement israélien comptant 120 députés nationaux.
L'invité.
Notre invité, c'est le professeur Jacques Joly. Ce constitutionnaliste était l'un des orateurs au colloque tenu à l'université de Lubumbashi sous les 7e anniversaire de la Cour constitutionnelle dont les assises se sont achevées hier. Il s'entretient à Lubumbashi avec Jean Gandou.
Professeur Jacques Joly, bonjour.
Bonjour monsieur Jean Gandou.
7 ans après, que peut-on dire de la Cour constitutionnelle?
7 ans après, il faut se féliciter que la Cour a été installée. La loi fondamentale de 1960 prévoyait une Cour constitutionnelle. Elle n'était pas installée en 64, en 67. Et voilà que la Constitution du 18 février, après plusieurs moments d'hésitation, parce que la Constitution est entrée en vigueur en 2006, mais il a fallu attendre pratiquement 7 ans, c'est-à-dire en 2013, pour que la loi organique sur la Cour soit adoptée et promulgué, et ce n'est qu'en 2015, n'est-ce pas, que la Cour a commencé son travail. Et là, nous venons de faire 7 ans. 7 ans, ce n'est pas beaucoup, mais c'est aussi énorme. Et il était important que nous puissions nous retrouver pour faire le point. Et nous avons dit que la Cour a rendu énormément d'arrêts, 2000 arrêts, mais le chemin reste encore très lent parce que la jurisprudence, elle est si pas chahutée, mais elle est mitigée. On juge l'arbre par ses fruits, que ce soit en matière de contrôle des constitutionnalités, en matière d'interprétation, en matière de contentieux électoral ou dans les autres matières pénales, la jurisprudence de la Cour pose un certain nombre de problèmes. Et voilà pourquoi nous avons réfléchi et nous avons dit qu'il fallait trouver deux pistes pour la révalorisation, pour la cristallisation de l'état de droit et de la démocratie qui sont, n'est-ce pas, les deux pieds de notre architecture constitutionnelle.
Quels sont les écueils que vous avez constatés tout au long de ces 7 ans, les principaux tout au moins?
Les écueils, c'est d'abord au niveau de l'organisation. Il faut dire que jusqu'à présent, la Cour n'a pas encore des infrastructures autonomes. La Cour dispose d'un budget qui est discutable. Mais au-delà des questions matérielles, la vraie question, c'est la question que j'appellerais ontologique. L'émergence de l'homo juridicus congolais. La question du réflexe constitutionnel. Aussi bien auprès de ce juge que des citoyens congolais. Nous avons vu une jurisprudence très très éloignée de l'esprit et de la lettre de la Constitution. De sorte que ces juges qui devaient, n'est-ce pas, être les garants de la Constitution apparaît comme le lieu des désespérances constitutionnelles et de la déconstitutionnalisation du jeu constitutionnel. Et c'est cette interpellation qui nous a amené à dit, mais pourquoi ces déphasages? Et la réponse, c'est que le juge constitutionnel, ontologiquement, a encore un chemin à faire, notamment en matière d'indépendance, notamment en matière de responsabilité, de sa conscience comme l'outil par excellence, l'homme par excellence qui doit construire l'état de droit et construire la démocratie.
Très bientôt, là, il y aura les élections de 2023, mais jusqu'à présent, la Cour constitutionnelle n'a pas encore fait en sorte que les gens aient davantage confiance en elle, notamment en matière des contentieux électoraux. Dites-nous, à ce stade, est-ce qu'il y a de quoi espérer?
Mais c'est ça, justement, la grande problématique. La Cour constitutionnelle qui est appelée à assurer l'intégrité du vote, à asseoir la crédibilité des élections. Parce que vous savez, la CENI n'est publique que des résultats provisoires. C'est la Cour qui, en définitive, dit les résultats définitifs. C'est la Cour qui garantit la régularité du processus électoral. Or, les 3 cycles électoraux ont montré qu'il y a énormément de limites. Ces limites on peut les situer à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des éléments pré-électoraux, mais au niveau du contentieux, la Cour doit faire une vraie révolution constitutionnelle ou culturelle pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, mériter la confiance des Congolais.
Est-ce qu'il y a lieu d'amender certains textes qui régissent la Cour constitutionnelle ?
Il y a débat. Il y a certaines personnes qui parlaient de la nécessité d'avoir un double déglé de juridiction au regard de ce qui est arrivé sur la question des erreurs matérielles. Mais que ce soit un juge ou une juridiction à double degré en matière électorale, ça ne change pas la question de l'intégrité du juge électoral lui-même. C'est l'homme qui est au cœur de cette histoire et autour de cet homme, il y a toute une organisation, tout un fonctionnement, toute une série de matériels qu'il faut mettre à la disposition, n'est-ce pas, du juge.
Par rapport au personnel, il y a de moins en moins de femmes au niveau de la Cour et ça a été évoqué ici. Comment résoudre cette question ?
Déjà, la première composition de la Cour ne comprenait pas une femme, ce qui était une violation flagrante au niveau de la Cour. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une femme, mais il faut arriver à trouver, parce qu'il y en existe, des femmes compétentes, des femmes intègres pour, n'est-ce pas, aller renforcer la Cour.
Je vous remercie, professeur.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le professeur Jacques Joly. Ce constitutionnaliste était l'un des orateurs au colloque tenu à l'université de Lubumbashi sur le 7e anniversaire de la Cour constitutionnelle. Il a été interviewé à Lubumbashi par Jean Gandou. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. Retrouvez-les sur www.radiookapi.net.